Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, en compagnie de Robert Daudelin. Bonjour, Robert.
Bonjour, Guy.
Et nous terminons notre émission avec Marc Lamotte, directeur et programmateur de Fantasia. Bonjour, Marc.
Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir.
Oui. Et en fait, c'est tout récemment, il y a à peine une semaine, le Festival international du film de Fantasia a créé un prix à la mémoire de Sandro Forte.
Oui.
Sandro, critique, musicien, réalisateur, programmateur, qui, le 18 janvier dernier, est décédé. C'est important pour vous, de créer ce prix-là, parce que c'est tout récent, là. Donc, souvent, les gens ont comme tendance à attendre, puis deux, trois semaines, ou au début du festival, mais là, non.
Oui. Écoute, sans être morbide, tu sais, la vraie mort est dans l'oubli, puis on voulait trouver un moyen de ne pas oublier Sandro. Okay. Depuis 1996 que le festival existe, et Sandro est, depuis 1996, un ami du festival, un défenseur du festival. Il a écrit sur nous, il a écrit pour nous, et on l'aimait beaucoup, puis en quelque part, c'est ça. On se souvient des réalisateurs, on se souvient des acteurs, mais on se souvient peu des critiques.
Oui. Il a même inauguré un festival avec un court-métrage en 2003.
Oui, il a inauguré Fantasia en 2003 avec le film Impérial. Oui, donc, un court-métrage qu'il avait réalisé sur le projectionniste de l'Impérial. Ce qui était ironique parce que 2003, c'est la première année où on a commencé à faire notre festival à l'Université Concordia et non plus à l'Impérial. Fait que c'est en même temps notre façon d'être un peu baveux, mais aussi de souligner notre histoire.
De rendre hommage
à une tradition qui est le projectionniste. Oui. Qui est un métier qui se meurt, malheureusement.
Sandro était capable d'être baveux, il n'y a pas de...
Non, tout à fait. Mais le film était dans tout le respect parce que Sandro, entre autres, ce documentaire-là est un bel exemple du personnage qui est Sandro. C'est un personnage extrêmement excentrique, ce projectionniste-là, extrêmement idiosyncratique. Et Sandro avait une grande sensibilité, je trouve, pour faire un portrait nuancé d'un gars qui a l'air d'un freak dans la vraie vie. Vous le rencontrez, ce gars-là, vous ne pouvez pas vous douter de tout ce qui l'habite et du métier et de la dédication qu'avait cet homme-là pour son métier. Et donc, c'est un très bel hommage, mais en même temps, c'est un clin d'œil complice, comme on disait, à notre histoire. Et ça démontre aussi le lien de proximité qu'on avait avec Sandro. En 2004, je pense qu'on a ouvert le festival, ou en tout cas, on a joué dans une tribune importante, Le fabuleux destin d'Isabelle Grondin, qui est un autre court-métrage qu'il a fait. Oui. Parce que c'est ça, Sandro, c'est un homme de la Renaissance. Sandro, c'est un homme qui a touché à tout. Il était programmateur, il a été journaliste, il a eu son propre site Internet, il a été musicien, il a voyagé à travers le monde avec son groupe Wetfish et ses productions, avec certains de ses courts-métrages et de ses films. En France, au Centre Pompidou, il y a même une rétrospective en 2010, il faudrait vérifier la date, de ses courts-métrages. Donc, il y a quand même...
Il a composé de la musique pour les bateaux dans le port.
Aussi, oui. Donc, une symphonie portuaire, pour la nommer. Et donc, c'est ça, l'histoire, pour revenir au début de la phrase, l'histoire se souvient toujours des acteurs, des réals, mais jamais des critiques. Dieu merci au cinéma du Parc, on a créé une salle à la mémoire de Luc Perrault, parce que sinon, regarde, la nouvelle génération se souvient plus de qui il était. Puis Sandro faisait partie de nos vies, puis nos vies viennent de changer. Nos vies ont changé le 18 janvier. Et dans le fond, comme Sandro avait deux passions, le cinéma et la musique, on s'est dit que créer un prix Sandro Forte pour souligner la meilleure bande sonore internationale était la seule ou la meilleure façon qu'on avait de lui rendre hommage et de garder sa mémoire vivante.
Oui. Surtout qu'il était très impliqué récemment. Je me souviens quand il a pu aller à Cracovie pour le festival qui travaille sur justement les musiques de films et les musiciens de cinéma. Son enthousiasme de pouvoir être allé là, puis il était resté en contact très, très étroit avec le festival. Oui. De fait, il était devenu comme consultant auprès du festival de Cracovie.
C'est un spécialiste de la bande sonore. Je veux dire, même dans 24 images, j'ai fait une entrevue avec le siffleur qui a sifflé dans les trois premiers films de Sergio Leone pour Ennio Morricone. C'est pour vous dire à quel point il était dans le détail. Puis fait que dans le fond, il y avait deux grandes passions, de ce que je sais. La musique industrielle ou électronique et la musique de bande sonore. Particulièrement la musique des western spaghetti ou des films euro-westerns. J'aime pas l'expression western spaghetti, c'est comme ça on disait que les films québécois, c'est des films de poutine, là. C'est plus que ça. Donc, on a trouvé une façon puis de lui donner un prix international et non un prix local, c'est aussi une façon de faire rayonner son nom.
Oui, oui. Puis parce que le prix, ça va être limité au film de la section Cheval Noir. C'est ça que
voilà, c'est une douzaine de films internationaux, oui, parmi les meilleurs de la programmation festival.
Et la décision va se prendre comment? Il va avoir un jury spécialisé?
Un jury qui va se prononcer sur... eux, dans le fond, ils vont se prononcer sur meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario et maintenant, meilleure mise en scène.
Il y a un aspect, on a parlé beaucoup, je veux dire, de son apport artistique, mais pour les gens qui ont côtoyé Sandro, savent aussi que c'est un grand humaniste.
Oui.
Hein? Donc, il, pour lui, je veux dire, défendre les causes de la rue, on en parlait tantôt, là, avant d'entrer en onde, était, je veux dire, une de ses préoccupations, je veux dire, les plus importantes. Là.
Plus mais encore, il a même fait un film.
Exactement,
sur ce...
c'est ça que j'allais dire. Lui, il avait une grande sensibilité pour les sans-domicile fixe. Écoutez, tous ceux qui l'ont vu marcher dans la rue l'ont vu régulièrement prendre le temps de leur parler à ces gens-là. Et il avait développé avec l'itinéraire et l'organise dans la rue, je crois, un programme où, pour intégrer les gens qui sont en réinsertion sociale, il leur a appris le métier du cinéma ou de la vidéo. Donc, il a tourné avec ces gens-là un long métrage pour leur permettre d'apprendre. Mais en même temps, ça prend une patience incroyable. Faire un long métrage de 80 minutes avec des gens qui n'ont jamais touché une caméra, une perche, qui n'ont ni le langage technique, ni la compréhension. Et il réussit à faire un film de 80 minutes avec cette gang-là. C'est absolument magnifique.
Mais c'est un film qu'on ne connaît pas.
Ben, malheureusement, c'est un film qui ne peut pas être diffusé parce qu'il a été tourné comme métier, comme force d'apprentissage, forme d'apprentissage. Mais malheureusement, comme le film a été fait dans des conditions non professionnelles, donc l'actrice n'a pas été impliquée, l'UDA n'a pas été impliquée, pour montrer légalement ce film-là, il y aurait toutes sortes de trucs illégaux qu'il faudrait aider, les ayants droit. Donc, c'est un peu compliqué. Plusieurs des acteurs, malheureusement, qui ont joué dans le film ou qui ont été impliqués dans le film, sont décédés pas longtemps après de la rue, malheureusement. D'ailleurs, le film leur est dédié en début dans un panneau très touchant. Donc, malheureusement, c'est un film qui pourrait peut-être être montré en festival, mais qui ne pourrait pas être diffusé ou partagé, malheureusement. Mais c'est un film qui porte sur les sans-abri et qui est fait avec des sans-abri et qui leur donne la parole et qui montre en quelque part quelque chose qu'on voit rarement à l'écran. Puis malheureusement, oui, je l'ai vu, mais malheureusement, je ne peux pas vous le partager. Mais je peux vous dire que Sandro, en plus d'être un bon critique, puis en quelque part, Sandro disait que l'ultime critique, c'est la réalisation d'un film. Si tu n'aimes pas le cinéma, si tu n'aimes pas comment le cinéma le fait, fais-en, puis montre ce que tu veux faire. Et c'est un peu ce que fait tout ça avec ce long-métrage-là.
Et c'est court, il a fait plusieurs courts-métrages?
Oui, il a fait au moins 6 courts-métrages. Je crois que si vous allez sur IMDb, il y en a 3-4 au moins qui sont mentionnés. Les plus beaux, selon moi, sont ceux qui portent justement sur le cinéma, mais je ne les ai pas tous vus. Mais moi, j'aime beaucoup celui qui s'appelle Impérial et celui qui, mais malheureusement, je ne crois pas, qui sont sur YouTube. C'est ça, ils sont difficiles à trouver.
Et à ça aussi, c'était quelqu'un qui avait un verbe particulier.
Oui, c'est un personnage avec un caractère fort et des opinions fortes.
Et qui aimait défendre.
Et c'est ça que j'aimais de lui.
Et effectivement, c'est ce qu'on retient de lui pour ceux qui les ont connus. C'est qu'on pouvait avoir des échanges qui étaient parfois assez rudes, mais toujours dans le respect.
Exactement.
Mais, je veux dire, quand il défendait une perspective, que ce soit cinématographique ou musicale, il tenait. Hein?
Ben, il faisait la différence entre « j'aime pas ça, puis c'est pas bon », puis il t'expliquait pourquoi il n'avait pas aimé ça.
Oui.
Et dans ce sens-là, il ne jugeait pas sévèrement, mais il parlait de façon critique de bien des choses. Et en quelque part, il n'y avait pas une langue de bois non plus, c'est ce qu'on essaie de dire. Mais en même temps, ce n'était jamais dans l'insulte, c'était jamais agressif. C'était dans ce cadre d'une discussion. Pour Québec, on n'aime pas ça quand on parle fort, on a l'impression qu'on chicane. C'était jamais de la chicane avec Sandro. Et si tu l'écoutais, ça le suffisait. Tu avais le droit de ne pas être d'accord et il respectait ça, mais il trouvait important de préciser pour quelle et quelle raison il avait aimé ou n'a pas aimé tel film. Et les deux étaient tout aussi importants.
Et ça, pour moi, c'est ce que je retiens de Sandro, c'est que c'était quelqu'un qui avait une opinion.
Tout à fait.
Et qui était capable de la défendre, puis était capable à la fois aussi d'écouter. Parce que des fois, on arrivait, parce qu'il était vice-président de l'Association québécoise de critique de cinéma, donc on arrivait, lors de certaines assemblées, à débattre de certains films pour des prix. Et Sandro avait des opinions parfois qui étaient tranchées.
Et comment?
Mais effectivement, je veux dire, il était capable de dire « voici pourquoi j'ai pas aimé ce film ». Et parfois même qu'il allait à contre-courant. Là. Tout le monde était d'accord, mais Sandro arrivait avec un point de vue et il le défendait. Et par la suite, il pouvait passer à autre chose. Là. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas d'amertume, pas de rancœur.
Non, pas du tout. Pour lui, ce qui était important, c'est d'expliquer un point de vue, tout simplement. Tu sais, le monde se divise en deux grandes catégories. Il y a ceux qui écoutent puis que ceux qui attendent pour parler. Sandro y écoutait.
Mais il était curieux. Sa curiosité était vaste aussi. Je me souviens que j'étais souvent étonné de le voir à certaines projections de presse. Connaissant ses goûts, je me disais, mais Sandro, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Ben, il disait, mais je veux voir. Mais
il donnait une chance au coureur.
Oui, oui, exactement.
Non, entre autres, petite anecdote, parce que c'est Chien de garde. Hein? Et,
ah oui.
Et il y a eu l'unanimité à peu près pour ce film-là et tout. Et Sandro est arrivé en disant « Je déteste ce film-là. » Et là, on revient avec les gens de la rue.
Oui, oui.
Il disait, les gens de la rue ne vivent pas comme dans ce film-là. Oui. Si vous voulez en faire un portrait social, ben je veux dire, c'est absolument pas représentatif ce portrait social, alors que tout le monde le croit. Et là, il avait débattu pendant, je veux dire, des minutes et des minutes.
Oui, ça explique Alter Ego, le film qu'il a réalisé, donc avec les gens de l'itinéraire, parce qu'à un moment donné, je vais vous montrer, moi, c'est quoi ma vision des gens de la rue et comment au cinéma, je crois qu'on devrait exploiter cette idée-là. Oui.
Et c'est vraiment une très, très bonne idée que vous avez eue hein, de célébrer sa mémoire.
C'est une idée d'équipe, hein, je ne le revendique pas.
Ouais, donc, hein. Mais on va sûrement en parler, hein, parce que le Festival Fantasia, c'est du 16 juillet au 5 août. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé de la programmation.
On ne sait rien encore.
Vous savez
on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir.
On ne vous bousculera pas, mais on vous attend de pied ferme.
Merci
exactement.
Beaucoup.
Mais effectivement, donc, ce prix à la mémoire de Sandro Forte, je veux dire, est une très, très bonne idée. Merci beaucoup, Mac Lamotte.
Merci à vous d'avoir consacré du temps à Sandro. Puis en fait, c'est Mitch Davis, le directeur de notre programmation, qui est arrivé avec cette idée-là. Donc, hommage aussi à Mitch d'avoir eu l'idée.
Bravo.
Puis loin
bravo.
De moi l'idée de me l'approprier.
Non, non. Puis effectivement, bon, Marc nous a amené le CD de Nosferatu. Hein. Donc, on va pouvoir écouter, je veux dire, un travail qu'avait
oui,
fait...
avec son groupe Wet Fish. Ça date de 2000. Donc, c'est au tournant du siècle. Oui. C'est une bande sonore alternative qu'il avait fait pour accompagner le film muet Nosferatu, de Murnau, qui adorait.
Et nous allons terminer, nous, notre émission en mémoire à Sandro en écoutant, je veux dire, ce travail de Sandro.
Merci, Marc.
Merci à vous.